Gabriel Monnet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes enseignant théologien pratique et doyen de la faculté de théologie adventiste. Vous vous intéressez de près aux questions écologiques. C'est peut-être aussi ça, la théologie pratique d'ailleurs.
Oui, absolument, puisque bien sûr, quand on est théologien, on réfléchit sur Dieu, sur la Bible et la compréhension de la dimension transcendante de l'existence, mais la spiritualité finalement n'a de sens que si elle débouche sur des choses concrètes dans le vécu relationnel avec Dieu, mais aussi avec autrui, avec notre environnement, la nature et tout cela.
Et alors donc, vous êtes aussi rédacteur pour la revue Signe des Temps, dans laquelle vous avez écrit un article intitulé « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et là, il s'agit de biodiversité. Gabriel Monnet, quel rapport y a-t-il entre la Bible et la biodiversité ?
Alors, il est bien clair que la Bible n'est pas un manuel ou un écrit scientifique sur la biodiversité contemporaine, puisque c'est un vieux livre que la Bible, mais un livre qui pourtant est très actuel. C'est une référence, bien sûr, alors pour toute l'humanité, mais je crois en particulier, évidemment, pour les croyants, et un livre qui aborde quantité de sujets liés à la création, à la manière dont les gens ont vécu leur rapport avec Dieu notamment. Et dans ce sens-là, dans ces récits de la création, par exemple, il est assez clairement déclaré que le monde initial a été créé divers et cette diversité est vue comme une richesse. Cette diversité de la vie, puisque biodiversité, hein, c'est le mot bio qui signifie vie, donc on parle d'une diversité de la vie, et ça, elle est modélisée, expliquée, valorisée dans la Bible.
Et alors dans la Bible, la question écologique est importante ?
Alors oui et non, pour être honnête, dans le sens où elle est importante, oui, elle apparaît de manière transversale. Ce n'est pas un sujet en soi. Pourquoi ? Parce que à l'époque où la Bible a été écrite, la crise écologique dont nous avons pris conscience et qui a émergé ces dernières années ou derniers siècles, même depuis, on va dire, la révolution industrielle, et même s'il y avait probablement des enjeux au préalable, mais ils n'étaient pas aussi exacerbés. Alors du coup, ce n'était pas un sujet problématique en soi. Il n'empêche que, malgré tout, la Bible dit ici et là, et à de très nombreuses reprises, il y a des choses très importantes, des choses sur l'écologie. Dans une compréhension que j'appellerais théocentrique, mais on y reviendra peut-être, de l'écologie. C'est-à-dire que le rapport de l'humain vis-à-vis de son environnement n'est pas déconnecté du rapport à Dieu.
Quand on parle de biodiversité, on peut en avoir plusieurs lectures, et c'est d'ailleurs votre cas, Gabriel Monnet.
Oui, alors, donc ça, je ne suis pas un spécialiste naturaliste ou autre, mais tous ceux qui ont étudié la biodiversité montrent qu'on peut avoir, qu'on comprend la biodiversité à trois niveaux. Au niveau des milieux de vie, c'est-à-dire qu'il y a une biodiversité sur cette Terre, il y a des endroits qui sont des océans, et donc avec tout un milieu autonome, il y a les forêts, il y a les déserts, il y a les prairies, etc., etc. Et donc, ces grands espaces ou petits espaces, comme la mare au fond d'un jardin, hein, par exemple, sont des univers globaux entiers qui sont différents les uns des autres. C'est assez évident que l'environnement dans un désert est complètement différent que dans l'océan ou que dans une forêt. Mais au-delà de ces grands espaces, on peut considérer la diversité aussi des espèces qui vivent dans ces milieux. C'est-à-dire que dans l'océan, ben voilà, il y a tout un tas de végétaux, d'animaux, de plancton, etc. Et on pourrait multiplier les exemples. Et puis ensuite, il y a un troisième niveau encore plus réduit, si on peut dire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces espèces, il y a encore une diversité. Alors là, on pourrait presque le prendre, alors c'est pas souvent comme ça qu'on l'entend en parlant de biodiversité, mais l'espèce humaine, en fait, tout un chacun est unique, parce que justement, il est valeureux en soi. Et favoriser la biodiversité, c'est reconnaître la valeur de chaque être vivant, finalement.
Pour votre article, vous vous appuyez sur le texte de Genèse 2 dans la Bible, et Dieu donne des consignes précises pour préserver la nature.
Alors, l'enjeu de ce texte de Genèse chapitre 2, qui parle de la création de l'homme, alors il faut bien situer les choses dans leur contexte aussi. Genèse 1, le fameux récit des 6 jours de la création, a présenté une photographie globale de la création. Puis dans Genèse 2, le rédacteur là va se focaliser, faire un gros plan sur la création de l'homme. Et donc la première chose dont parle Genèse 2, c'est la manière dont l'être humain a été créé, les rapports qu'il a, Adam et Ève, l'homme et la femme, et leur rapport avec Dieu. Mais en étant focalisé sur la création de l'homme, eh bien, le texte nous apporte des choses très intéressantes sur le rapport à l'environnement. Et notamment avec cette phrase qui a fait le titre de l'article en question, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors le premier niveau de lecture est le rapport entre Adam et Ève, l'homme et la femme, mais on peut absolument l'appliquer. Il y a beaucoup d'indices dans le texte qui montrent que ça peut vraiment se décliner aussi avec la nature et dans cette dynamique de biodiversité.
Gabriel Monnet, au fond, tout un chacun est invité dans notre société aujourd'hui à préserver la nature, parce qu'on a bien pris conscience qu'il y avait un vrai problème autour de ces questions écologiques. Par contre, qu'on soit croyant ou non, la question semble aussi prégnante de chaque côté. On considère aussi parfois que si la planète en est à ce point, c'est aussi à cause des chrétiens qui n'ont pas fait attention ou qui ont eu une lecture particulière de ces textes, justement de Genèse 2. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, je crois entendre deux aspects à votre question. Dans la première partie, cette question de savoir si chacun de son point de vue va être un promoteur, finalement, de la préservation, ou en tout cas du soin écologique. Et je crois que c'est évident. Mais pour des raisons différentes, on peut avoir les mêmes objectifs. Pour les chrétiens, comme je le disais précédemment, prendre soin de la création, et déjà dire la création, c'est dire quelque chose, c'est croire qu'il y a un créateur, eh bien c'est quelque chose qui va être important. Peut-être que pour un incroyant, il va dire « Oui, mais moi je veux protéger la création parce que je crois dans cette beauté nature, universelle, etc. » Pour quelqu'un qui va être très pragmatique et centré sur l'humain et le consumérisme, il va dire « et certains vont dans cette écologie-là, hein, il faut absolument avoir une responsabilité écologique parce que sinon notre espèce est en danger et pour notre survie, donc c'est très égocentrique. Mais voilà, finalement, quelle que soit la philosophie qu'on a, alors, il y a d'autres écoles possibles. Hein. Il y en a qui peuvent sont après moi le déluge. Hein. Mm-hmm. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une synergie vers un soin pour des raisons philosophiques différentes. Alors maintenant, la question de savoir si les chrétiens ont été des promoteurs ou pas, et plutôt pas dans l'histoire. Alors, je ne crois pas qu'il faut non plus trop jeter la pierre aux chrétiens, mais il faut malgré tout reconnaître que les chrétiens n'ont pas toujours été des modèles et des exemples. Malgré ce qu'on relit aujourd'hui ou qu'on redécouvre, qui n'a peut-être pas été assez mis en exergue dans le passé, ce que la Bible contient comme responsabilité en tant qu'intendant de la création, le fait de poser des limites, le fait de nommer les choses par leur nom, hein, tous ces éléments qui sont par exemple dans Genèse 2 qui nous invitent aux soins d'autrui, le fait de cultiver et garder le sol et le jardin. Mais en même temps, les chrétiens, ils sont focalisés vers un avenir où, comme la Bible le dit, hein, Jésus reviendra, toutes choses seront renouvelées. Donc parfois les chrétiens se sont dit, finalement, pourquoi prendre soin de quelque chose qui sera magiquement, enfin en tout cas par Dieu, de manière incompréhensible par nous, recréé. Et du coup, ça peut parfois amener certains chrétiens à dire, ben voilà, en fait, notre préoccupation n'est pas de ce monde, mais du monde à venir. Alors que je crois qu'il y a évidemment un lien, si on est attentif au texte biblique et si on comprend bien l'intention de Dieu. Dieu souhaite qu'on prenne soin de ce monde aujourd'hui comme une manière d'être, finalement, qui doit nous faire être pleinement responsables.
Vous mentionnez vous-même dans l'article que vous avez fait un tour du monde il y a quelques années avec votre famille. Ça contribue, ça, à sensibiliser aux questions écologiques ? Parce que vous êtes vous-même très sensible à cette question.
Alors, oui, effectivement, c'est quelque chose qui a exacerbé ou en tout cas enrichi notre regard écologique. Alors, d'une certaine manière, il était déjà présent avant. Et d'ailleurs, les deux axes de notre voyage, c'était visage et paysage. Donc, rencontrer les gens et admirer les beautés de la création, de la nature. Et alors, on a été servi, c'était fabuleux de voir au niveau végétal, bien sûr, la variété, la richesse de la nature. Au niveau animal, c'était fabuleux. Et au niveau minéral, ce qui nous a presque le plus surpris. Mais peut-être je peux prendre un exemple que j'évoque dans l'article concernant les dauphins roses, mais il y en aurait d'autres avec les pandas en Australie, etc. etc. Donc il n'y a plus que 3 spots dans le monde où il y a des dauphins roses. Mm-hmm. Et c'est vrai que Donc l'un d'entre eux est à Hong Kong, et lorsqu'on était à Hong Kong, on avait pris contact avec une association qui cherche à les préserver, et en fait personne ne les chasse vraiment, c'est pas ça le problème, mais par contre l'extension immobilière, et Hong Kong est un petit territoire et maintenant construit de plus en plus sur la mer, en fait détruit les habitats de ces dauphins qui sont du coup en danger. Donc cette association génère ça, et elle encourage ceux qu'ils veulent à aller les voir pour être sensibilisés. Alors du coup je suis pas un porte-parole de ces dauphins roses, mais en tout cas ça permet de prendre conscience que les choses sont bien plus complexes qu'on l'imagine, que tout est lié finalement dans nos manières d'être et dans nos actes, et que voilà, c'est essentiel et important. Mais en tout cas assez clairement, ce voyage, oui, nous a encouragé et a vraiment remis une couche pour cette prise de conscience de la nécessité de protéger cette belle nature.
Enfin, Gabriel Monnet, pour conclure, Benjamin Calment, qui est directeur de publication de cette revue Signe des Temps, écrit que lorsque les chrétiens se décideront à suivre les recommandations de Dieu sur l'écologie, alors être chrétien deviendra un acte écologique. Vous êtes d'accord avec ce que dit Benjamin Calment ?
Alors, je suis globalement tout à fait d'accord, parce que je ne crois pas qu'être chrétien, c'est être dans ces petits nuages spirituels, mais c'est, oui, peut-être avoir la tête au ciel, mais les pieds et les mains bien ancrés dans ce vrai monde. Et surtout que ce monde sur lequel nous marchons, et c'est tous ces fruits, ces fleurs que nous cueillons par exemple avec nos mains, eh bien, elles sont liées à ce merveilleux acte créateur de Dieu, en tout cas c'est comme ça que les croyants vont le considérer, et du coup en prendre soin, c'est une manière d'honorer Dieu, donc c'est finalement fondamentalement être chrétien. Alors après, il faudrait peut-être nuancer dans le sens où l'essentiel est d'être chrétien, et qu'il ne faut pas réduire le christianisme à des actes, ou alors essayer d'obtenir un salut par des œuvres, comme on a pu le dire. Mais ça rejoint ce qu'on disait, où finalement la responsabilité écologique, en lien notamment avec la biodiversité, mais quantité d'autres aspects de l'écologie, eh bien c'est avant tout une manière d'être. C'est pas en se dédouanant parce que voilà, j'ai recyclé ceci, ou j'ai coupé l'eau du robinet en me lavant les dents, que tout d'un coup je dis bon, pour le reste, je peux faire ce que je veux, comme je veux. C'est une manière d'être plus globale, et le fait d'assumer sa vie chrétienne va forcément de pair avec cette responsabilité écologique.
Merci beaucoup, Gabriel Monnet, d'avoir répondu à ces questions au micro de Signe des Temps, le mag. On se retrouvera sans doute pour d'autres articles. À bientôt. Au revoir.
Avec plaisir. Au revoir.
C'était Signe des Temps, le mag. Retrouvez l'article de Gabriel Monnet dans la revue de juin 2020 qui porte sur le thème de l'extinction des espèces et que dit la Bible sur l'écologie. Nous avons d'ailleurs le plaisir de vous offrir un exemplaire de ce magazine sur simple demande de votre part à cette radio et en partenariat avec Signe des Temps. Nous nous retrouverons le mois prochain, cette fois-ci avec Pierre Kempf au micro de Signe des Temps, le mag, qui lui nous parlera des musulmans face à la biodiversité. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en podcast.